Ça va être tout le chapitre de Genèse, chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham! » Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Genèse chapitre 22, verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père! » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham! » Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je te multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, « Voici Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. Uth, son premier-né, Buz, son frère, Kemuel, père d'Aram. » Kesed, Azo, Itzak, Gildash, Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les huit fils de Milca à engendrer à Nachor, fils d'Abraham, frère d'Abraham. Sa concubine nommée Réhuma a aussi enfanté Tébac, Gaham, Tahash, Mahaka. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? La foi, la vraie foi, est démontrée, manifestée et révélée par une obéissance sacrificielle sans refus d'obéir à Dieu de ce qu'il demande. Face aux promesses de Dieu, la foi nous permet de mettre les demandes de Dieu par-dessus au-dessus de nos ambitions et ainsi dépendre de Dieu pour qu'il pourvoie pour accomplir ce qu'il a promis. Ainsi, la foi est vraiment visible, est vraiment tangible quand il nous faut renoncer à tout et suivre l'appel de Dieu. On peut se rappeler peut-être du jeune homme riche quand Dieu lui dit, il te manque une chose, va et vends tout. Il fallait qu'il dépende de Dieu. Abraham n'est pas différent. Abraham devait dépendre de Dieu pour la réalisation de la promesse. Et sa foi l'a amené à penser que Dieu peut redonner la vie à son fils Isaac. Dieu n'avait pas le choix. On le sait, Dieu n'avait pas le choix. Dieu était lié par sa promesse. Donc, quelle que soit la demande, quelle que soit sa demande, il verrait à ce que Isaac soit le descendant promis. Ainsi, Dieu donne le test. Dieu pourvoit à la réussite du test et Dieu bénit l'obéissance face au test. Donc la foi, la vraie foi, est démontrée, révélée et manifestée par une obéissance sacrificielle sans refus d'obéir à ce que Dieu nous demande. Donc on se rappelle que Dieu avait fait des promesses à Abraham. Et ça partit à partir de Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. On se rappelle que Dieu avait dit de s'en aller dans un pays où il ne connaissait pas, pour se rendre à un lieu qu'il ne savait que Dieu allait lui montrer. Et à partir de là, Dieu lui a dit qu'il allait avoir un grand nom, il allait être une grande nation, et il allait être une source de bénédiction pour plusieurs. Après ça, on a vu dans Genèse chapitre 15, 4 à 5, Dieu a réitéré cette promesse-là en lui disant que Abraham pensait que ça allait être son serviteur, qu'elle allait être l'héritier, mais Dieu revient et lui dit non, ce ne sera pas lui l'héritier, mais c'est vraiment quelqu'un qui va sortir de tes entrailles. Alors il y a eu Ismaël. Et là, Dieu est revenu réitérer, rajouter à sa promesse, préciser sa promesse, en lui disant que non, certainement c'est Sarah, ta femme, qui enfantera un fils. Et finalement, on a vu la semaine passée dans Genèse 20:12 que Dieu dit que c'est vraiment Isaac qui va être choisi pour être le descendant de la promesse. Et ainsi, on voit que Dieu a vraiment guidé et a vraiment renforcé l'idée. Et ça a été accompli la semaine, le 20, dans le chapitre 21, où finalement, Isaac a été né. Dieu a accompli sa promesse. Dieu a tenu parole. Donc, on lit après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et donc, il faut comme ça une petite parenthèse par rapport à Dieu mit Abraham à l'épreuve. Parce que, évidemment, si vous connaissez la parole, ce qui vous vient en tête, c'est que dans Jacques, Jacques nous dit que Dieu ne tente pas, Dieu ne met pas à l'épreuve. Donc, il a fallu que je regarde un peu par rapport à tout ça, parce que le mot « épreuve » dans Jacques est interchangeable dans le texte que Jacques suit. Donc, mais on voit ici que Dieu met à l'épreuve. Et on sait que Dieu teste la foi d'Abraham. Donc, la conclusion qui est venue, c'est que l'épreuve, le test, produit la louange à Dieu. Le test produit une transformation qui amène à la sainteté. Donc, on voit ça dans 1 Pierre 1, 6 à 7. Donc, je vais lire 1 Pierre 1, 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps pour diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le foi, le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Et on lit dans Jacques 1, 2 à 3, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. que moi, je trouve un peu drôle avec le mot épreuve, parce que c'est une connotation, en tout cas, moi, quand je lis épreuve, c'est une connotation négative de la chose. Quelque chose qui nous arrive dans le sens qui nous fait mal. Mais réellement, le mot, c'est test, examen. Dieu est en train de vraiment juste amener une situation pour voir comment l'homme va réagir. Donc, dans le cas précis, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une situation négative. Donc, quand on dit Dieu, c'est sûr, il va nous tester, il va chacun de nous, ce n'est pas nécessairement qu'une situation malheureuse va arriver. Dieu pourrait nous tester en nous rendant riches. Et ça pourrait basculer d'une manière ou d'une autre. Ainsi, la tentation, quand on lit épreuve, la tentation, tout ça, produit le péché. Et c'est une transformation qui mène vers la mort. Et Jacques est très clair là-dessus. On lit que personne, dans Jacques 1, 13 à 15, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsque qu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Et dans ce cas-là, on voit, on peut vraiment prendre épreuve et le mettre comme tentation. Donc il y a les tests et le fait d'avoir la tentation. Donc vraiment ici, et on sait que Jésus s'est fait tenter, et ça n'a pas produit le péché, Dieu l'a envoyé dans le désert pour être testé. Et ainsi on voit que Dieu met Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Et Abraham répond « Me voici ». Et Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Est-ce que vous sentez l'intensité de la demande de Dieu dans le verset 2? Si vous sentez l'intensité de la demande de Dieu dans le verset 2, est-ce que vous pouvez me décrire comment on voit qu'il y a une intensité dans la demande de Dieu? Qu'est-ce qui est dit dans le verset 2 qui nous montre que c'est une demande vraiment douloureuse pour Abraham? Exact. Donc, il y a vraiment une progression. Dieu commence par dire ton fils. Après ça, il précise ton unique. Parce qu'on sait qu'à travers maintenant, Ismaël ne fait plus partie de l'image de ce qui va arriver pour les descendants. Et oui, là, il rajoute celui que tu aimes. Le commentateur disait que on a vu la dernière fois que Abraham aimait Ismaël aussi.
Oui.
Et là, Dieu dit, c'est Isaac. C'est Isaac que je veux. Que tu sacrifies en holocauste. Donc, si vous aviez des doutes là sur combien précieux est Isaac pour Abraham et Sarah, ici, nous pouvons mesurer la grandeur de l'amour qu'il avait pour son fils. Il faut comprendre que là, Isaac, ce n'est pas le petit garçon qu'on a connu lors de la fête de sevrage. Isaac a grandi.
Peut-être,
oui, autour de ça. Donc, Abraham et Sarah ont eu beaucoup de temps pour apprécier la promesse que Dieu leur avait faite à travers leur fils Isaac. Et on peut comprendre que pour eux, après avoir attendu autant longtemps, Isaac était vraiment, comme on l'a vu, la joie. Et on peut quasiment penser que, on sait que Isaac n'est pas parfait, mais tellement que c'est précieux, je peux voir en tant que parent que les choses que Isaac fait, et parfois peut-être partie, ah, c'est pas si grave que ça, de toute manière, c'est un cadeau que Dieu nous a fait, incroyable. Donc Dieu choisit quelque chose dans la vie d'Abraham qui est important pour lui, dont les ambitions a de devenir une grande nation. Et est-ce que sa foi d'Abraham, elle est vraiment réelle? Réellement, la foi, on ne la voit pas. Moi, je ne vois pas votre foi, vous ne voyez pas ma foi.
Oui, on peut voir votre foi. Par exemple, si on peut vous connaître personnellement, on peut voir votre amour pour la parole de Dieu, on peut voir votre fruit que vous dégagez de la nouvelle maison, etc.
Oui, oui, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que comme le vent, je ne vois pas la foi. Il n'y a pas de... Je vais venir à ce point-là comme tu as décrit, oui, mais...
C'est ça, ce que Charles décrit, c'est des œuvres qui découlent de la foi. Il faut comprendre les deux.
C'est ça, exact. Donc, la foi, comme on pourrait dire le Saint-Esprit, on ne le voit pas. On sait qu'elle existe, mais il n'y a personne réellement qui va pouvoir dire, à part Dieu, que vous avez la foi. Et nous, en fin de compte, en lisant le récit d'Abraham, on ne peut pas nécessairement dire qu'il a la foi. Parce qu'il a quand même été un homme pas mal imparfait dans son parcours avec Dieu. Outre le fait que, oui, il a quand même quitté tout pour aller suivre Dieu. Mais combien de gens dans la vie font des actes comme cela? Mais qui, à la fin, dans le courant du temps, on réalise que leur foi n'était pas nécessairement réelle. Et pour chacun de nous, c'est un peu ça, cette réalité-là. Avant de pouvoir voir quelqu'un qui est prêt à obéir d'une manière sacrificielle à Dieu, lorsque Dieu lui demande d'agir dans une situation de sa vie, on ne peut pas dire que, on ne peut pas certifier que cette personne a la foi. Et oui, ça revient à les œuvres. Et ainsi, Abraham va être qualifié un homme de foi dans Hébreu, parce que précisément, il va ici accomplir l'acte le plus grand par rapport à la démonstration de sa foi. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Et là, offre-le en holocauste. Comment Dieu peut demander de sacrifier un homme? Si on sait bien une chose, c'est pas dans le caractère de Dieu. Dieu ne semble pas vouloir qu'on sacrifie des hommes envers lui.
On voit ça deux fois par exemple, les règles.
Oui, exact. Exact. Et on peut lire dans Lévitique que Dieu condamne les sacrifices qui est fait à d'autres dieux, d'hommes, d'enfants, tout ça. Donc, pour nous qui connaissons l'histoire un peu en avance, comme Dani aime bien dire, on a triché. On voit la demande de Dieu un peu hors du commun, hors Dieu. Et on est un peu offusqué. Mais à ce moment précis-là, peut-être dans l'entourage d'Abraham, peut-être que les peuples déjà faisaient ça. Donc, une demande comme celle-là, peut-être que lui, il n'a pas perçu hors caractère de Dieu. C'est pas écrit, on ne sait pas, mais c'est une supposition. Donc, c'est incompréhensible de n'importe quel sens que nous le regardons, là, et certainement humainement inconcevable que Dieu va demander cela. Et notre première réaction, c'est de dire à Abraham, tu as mal entendu, là. La plupart des gens dans son entourage, probablement, comme on avait vu, connaissent un peu, ont une bride de ce que Dieu avait promis à propos d'Isaac. Et là, on est dans une situation où on va voir notre ami Abraham, puis on lui dit, « T'as vraiment pas compris qu'est-ce que Dieu t'a dit. T'es-tu sûr que Dieu t'a parlé? Dieu te demande de faire ça? » Oui. Avez-vous déjà été dans un tel dilemme, un tel test, une telle épreuve? Vous avez la conviction que l'Esprit vous pousse à agir et obéir d'une manière humainement inconcevable. Et pourtant, votre chair et vos proches ne semblent pas être convaincus que Dieu vous a réellement demandé un tel sacrifice. On peut juste penser au fait de croire en Jésus. Il y a pour certaines personnes, de croire en Jésus, de mettre toute leur confiance en Jésus, va leur coûter tout, va leur coûter une obéissance sacrificielle. On peut penser au pays où les gens vivent la persécution. On peut penser à Hudson Taylor. Dans l'histoire de Hudson Taylor comme missionnaire, il a senti que Dieu l'appelait à une tâche précise concernant rejoindre les gens en Chine. Et arrivé là, la communauté missionnaire avec laquelle il s'est joint n'a pas compris ou semblait lui dire de ne pas agir de la manière qu'il avait été convaincu que Dieu l'appelait à devenir semblable aux Chinois, s'habiller comme les Chinois, apprendre réellement le chinois, vivre la culture chinoise, en vue, lui, de les atteindre. Même qu'il leur disait, va pas plus loin que reste en ville. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était aller à l'intérieur de la Chine. On peut penser à Pierre. Il voit Jésus qui arrive sur l'eau. Et là, il dit à Jésus, est-ce que je peux venir vers toi? Pierre, as-tu vu l'eau autour de toi? Ta demande est irraisonnable. On peut penser à Élie avec les prophètes de Baal. Tu veux vraiment mettre de l'eau sur l'autel? Tu veux vraiment inonder l'Holocauste? Dieu t'a vraiment demandé de prouver qu'il était Dieu. C'est dans ces moments-là que la seule alternative, c'est de dépendre de Dieu. Dans cette situation-là, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu va faire. On ne sait pas avec quoi la résolution. Abraham ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec ce sacrifice que Dieu lui demande. Et dans notre obéissance avec Dieu, parfois, qui nous demande de sacrifier tout, on ne sait pas c'est quoi le résultat. On ne sait pas c'est quoi la conclusion de la chose. Ce qu'il faut, c'est dépendre de Dieu. Lorsque Jésus dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, parce que le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent », c'est qu'il demande aux gens de dépendre de lui pour tout. Comme un enfant, un bébé, ne peut rien faire de lui-même, il doit absolument dépendre de ses parents.
Il y a une chose que le bébé et les enfants ont, que nous, on a un peu, ils sont humbles.
C'est ça. Ils peuvent. Et sans l'assistance de leurs parents, donc nous, sans l'assistance de Dieu, on est voué à la mort, on est voué à l'échec. Une chose certaine, c'est que pour Dieu, c'est que pour obéir à Dieu, comme j'ai dit, il n'est pas important de savoir comment, quand, pourquoi. Parce qu'on sait que la foi croit aux choses invisibles. Et ainsi, Abraham se leva de bon matin, on lit au verset 3. Et encore une fois, cette phrase-là, on l'a vue, et Abraham ne tarde pas à accomplir ce que Dieu lui demande. Ici, Abraham ne questionne pas Dieu. On a l'histoire de Sodome et Gomorre, on sait qu'Abraham n'est pas gêné de questionner Dieu sur ses demandes. On se souvient, et on va le voir, il va questionner Dieu jusqu'à temps qu'il va dire à Dieu que tu vas condamner le juste avec l'injuste. On sait qu'il veut sauver Lot. Mais ici, il n'y a pas de discussion qui aurait pu survenir. Abraham se lève de bon matin. Et c'est, qu'est-ce qu'Abraham s'est empressé de faire? Il s'est empressé de se préparer pour aller au lieu où Dieu lui avait dit. Donc, Abraham avait déjà perdu Ismaël, et là, il semble que Dieu lui demande de perdre Isaac aussi. Et dans tout ça, on se souvient de Sarah, là, son tempérament un peu fougueux. Je ne pense pas, comme tu dis, Charles-Olivier, qu'Abraham a parlé de ça à Sarah. Et on a vu comment elle a réagi plusieurs fois pour avoir cet enfant Isaac. Donc, il serait incompréhensible de penser qu'elle veut l'offrir en holocauste. Donc, on continue et on lit au verset 3. Donc, Abraham sella son âne, prit avec lui deux serviteurs, son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait demandé. Et là, il faut noter qu'Abraham prévoit tout. Il prévoit le bois, donc ça peut sembler anodin, mais il prévoit le bois. Il ne sait pas où Dieu va l'amener, mais il prévoit le bois en vue que ce n'est pas le moment d'être arrivé au lieu où Dieu l'a dit. Puis là, il dit, ah ben, en fait, toi, tu n'as pas de bois. Oh, je vais revenir un autre jour, j'allais couper le bois. Non, Abraham, il fait tout. Il prépare tout, il a le bois, il va avoir, comme on voit, le couteau, il va avoir le feu, tout ce qui est nécessaire pour allumer un feu. Donc, Abraham est vraiment prêt à obéir Dieu comme il lui a demandé. Et donc, au verset 4, on lit, le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. 3 jours pour se rendre au lieu. 3 jours à penser à tout cela. 3 jours à vivre dans un peu ce qu'on a dit, seul face à la demande de Dieu. Et dans tout ça, on réalise qu'Abraham est alors dans une réflexion par rapport à qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui a promis et qu'est-ce que Dieu lui demande? Et ça, c'est le cheminement que Abraham va faire pendant 3 jours avec les serviteurs, avec Isaac. On sait que la conclusion de la réflexion d'Abraham, c'est de se dire que je ne sais pas qu'est-ce que Dieu me demande, mais je sais qui est Dieu, je sais qu'est-ce qu'il a déjà accompli. Souvenez-vous, lorsque Isaac est né, Abraham a été un homme changé par rapport à sa compréhension de qui est Dieu. Et on sait que dans Hébreux, ça nous dit que la conclusion à laquelle il est arrivé, c'est que Dieu pouvait même ressusciter Isaac. Et il faut croire que c'est dans ce cheminement-là, jusqu'au lieu où Dieu l'a amené, qu'il a dû se battre avec cette idée-là. Peut-être c'était avant, peut-être c'est quand il s'est levé de bon matin. Toute la nuit, il a pensé à ça, puis là, il a réalisé cette conclusion-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas essayé de détourner des vérités fausses par rapport. Il s'est mis, qu'est-ce que je sais de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait? Et voici ce que Dieu me demande. Voici les conclusions possibles que Dieu peut faire. Et on sait que la résurrection, à ce moment-là, n'avait pas, en tout cas, pas été décrit dans notre texte. Donc, vraiment, Dieu a permis à Abraham d'arriver à une conclusion qui était hors du commun, comme la demande. Et c'est pour ça qu'au verset 5, on lit, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Et nous reviendrons auprès de vous. Donc, l'assurance d'Abraham, il ne sait pas comment Dieu va le faire. Là, ce n'est pas parce qu'Abraham est meilleur que nous. Abraham reste un homme. Il s'est bataillé avec lui-même, avec ses pensées. Mais il faut qu'il croie que Dieu va accomplir quelque chose. Parce que Dieu a accompli l'incompréhensible. Isaac est né d'une femme stérile après tant d'années. Donc, Dieu devait continuer d'accomplir ses promesses. Et ici aussi, même chose que Sarah, les serviteurs n'auraient probablement pas compris. Donc, on sait que Abraham ne leur a pas expliqué. Il leur dit de rester là. Ils se seraient sûrement interposés avec Abraham s'ils l'avaient amené jusqu'au lieu où il avait dit. Donc, il reste là pour pas qu'ils voient cet acte horrifiant devant leurs yeux et qu'ils empêchent Abraham d'obéir. Encore une fois, on voit Abraham s'assure qu'il va faire ce que Dieu lui demande. Au verset 6, on lit, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Moi, je lis ça, puis je vois tout le poids de comment c'est pénible. Ça devait être un silence. Et ils marchèrent ensemble. Il a mis le bois. Il sait que son fils va être sacrifié. Il l'a mis sur son fils. Il a le couteau, il a le feu, ils marchent ensemble. On peut sentir toute la charge émotionnelle qu'il y a. C'est comme si le temps s'était ralenti quand on lit cette phrase-là. Et ils marchent ensemble. À l'exact où Dieu veut qu'ils vont. Donc ici, il y a des commentaires qui disent que Isaac fait l'image de Jésus qui porte la croix. Fait qu'il y a deux possibilités à ces images-là. Donc, on peut avoir Isaac qui porte la croix, qui est le fils, qui représente Jésus, le fils unique, qui va être sacrifié. Moi, je pense plus pour qu'on va voir que Abraham va dire Dieu va se pourvoir l'agneau. Donc, je pense plus pour l'aspect que l'agneau que Dieu va pourvoir est vraiment Jésus qui prend la place de Isaac. Mais dans tous les cas, ça peut fonctionner. Donc, ici, je fais juste cette parenthèse-là. Mais vraiment, ici, le temps a ralenti par rapport à ils marchèrent tous deux ensemble. Et dans cette marche-là, au verset 7, Isaac dit, alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et Abraham répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Une question très pertinente, Isaac avait déjà, on sait que Abraham était accoutumé à faire des autels pour Dieu. Donc, ce n'est pas surprenant que Isaac se demande cette question-là. Il n'y a rien de malicieux par rapport à. Il n'y a pas de sous-entendu. Il fait juste demander OK, on a tout ça, mais il semble manquer l'élément essentiel au sacrifice à l'Holocauste. Moi, je lis Abraham qui dit me voici mon fils, comme s'il s'attend à ce que Dieu ait parlé à Isaac, qui lui dise OK, c'est bon, on arrête tout. Je sais que tu crois en moi. En tout cas, j'adore cette situation-là, puis... Oui, quoi? Ah, ok, non, c'est pas ça. Et là, Abraham répond, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et n'est pas ce qui est arrivé. Dieu a... Oui?
Ce qui est intéressant ici, c'est que le verbe pour voir, c'est le même que pour voir. D'accord?
Ouais.
Adonai Yireh, ça c'est l'éternel voit. C'est aussi l'éternel proportionnel que
ouais. Exact.
Si Dieu voit quelque chose, il pourvoit. C'est,
exact.
Ça va ensemble.
Oui. Se voit lui-même pour accomplir l'acte. Oui, exact. Donc, Dieu se pourvoira lui-même l'agneau pour le coup. Donc, n'est-ce pas ce qui est arrivé? Dieu a pourvu l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est comme si on voit que Dieu a déjà, encore une fois, rappelé aux hommes, comme on avait vu au début, après la chute, qu'il y a quelqu'un qui va venir pour prendre notre place. L'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et voici encore cette phrase qui nous fait ralentir dans l'histoire et qui nous fait comprendre que Abraham, réellement, dans cette parole-là, est-ce qu'il la comprend réellement? Peut-être pas. Il est peut-être encore dans un aspect de type où Dieu a mis cette parole-là en vue que pour nous, lorsque nous le regardons plus tard, on peut voir que Dieu avait déjà pourvu un plan. On voit dans les évangiles cette histoire-là du sacrifice d'Abraham est vraiment utilisée à maintes reprises pour nous parler de la foi. Et donc, on continue et on lit au verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, il rangea le bois, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Donc ici, on manque la réaction d'Isaac. Donc, on sait que Isaac est d'âge assez avancé qu'il aurait pu se combattre avec son père. Et on n'oublie pas qu'Abraham était aussi assez âgé que si Isaac avait vraiment voulu se battre avec Isaac, Isaac aurait vraiment voulu se battre avec son père, il aurait peut-être eu un peu plus de misère. Mais là, le texte est silencieux. Donc, la plupart des commentateurs pensent que ça montre la soumission de Isaac par rapport au fait que le Père vient pour le lier. Encore une image type de Jésus qui est soumis au Père lorsqu'il va à la croix. Le terme « il y a », le terme « lia » est la seule fois qu'il est utilisé dans le texte, dans l'Ancien Testament. Donc, c'est vraiment... un mot technique là, pour dire qu'on attachait les animaux avant de les mettre sur l'autel. Donc, Isaac est vraiment lié, il ne peut pas bouger, et là, il le met sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main au verset 10, il prit le couteau pour égorger son fils. Et ici, c'est probablement le point culminant de l'histoire. Donc, il y a beaucoup d'illustrations qui montrent Abraham par-dessus son fils. C'est intéressant. Je ne sais pas si à la lecture de ça, on peut dire qu'Abraham était par-dessus son fils. Moi, j'ai l'impression que déjà, juste le fait d'amener sa main au couteau où il avait mis, quel que soit où il était, c'est là que Dieu lui dit « Abraham, Abraham ». Parce que le terme veut juste dire « venir prendre ». Encore là, c'est débattable. Mais ça reste le point culminant du fait que Abraham, là, est vraiment réellement prêt à obéir à Dieu. Donc, il a le couteau à la main. Il est là à croire à ce qu'il n'a jamais fait auparavant. Il faut qu'il croie en Dieu. Il faut qu'il obéisse d'une manière sacrificielle. Met de côté ses ambitions. Met de côté ses rêves. Ce qu'il a de plus précieux pour obéir à Dieu. Et il va égorger son fils comme un animal. Donc, la scène est vraiment sanglante de l'action qui est demandée d'Abraham. C'est d'égorger son fils comme on le faisait pour un animal sur un autel. Alors, l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham! » Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. » Et là, on est tous comme « Ouf! » Si vous avez lu cette histoire-là pour la première fois, c'est la réaction que vous avez. Vous êtes comme « Wow! » Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Et c'est ça la foi. À ce moment précis, nous-mêmes, on peut dire qu'Abraham a la foi. On peut dire qu'Abraham dépend de Dieu. Et ainsi, on voit que Dieu a mis le test. Et là, on rentre dans Dieu pour voir la solution pour le test. Car je sais que maintenant, tu crains Dieu. Nos yeux peuvent dire qu'on voit tangiblement la foi d'Abraham. Qui au début n'était pas passé.
La dernière fois, mais c'est pas le même type de foi. Sa foi est devenue plus grande et plus obéissante. En fil du chapitre, au moment qu'Abraham est plus obéissant, qu'Abraham croit au funeste, qu'il va avoir un fils de plus en plus. Et l'obéissance a juste confirmé sa foi, mais il avait déjà la foi. C'est déjà une grande preuve de foi quand tu dois quitter ta ville natale pour aller à.
Oui, on sait qu'Abraham avait la foi parce que Dieu l'avait justifié. Dieu, on a vu, il a dit, Abraham a été justifié. Mais pour nous, c'est seulement réel et tangible. Et même pour Isaac, même pour Abraham lui-même, cette assurance qu'il obtient, elle est confirmée par Dieu. Lui-même, il peut avoir cette assurance-là à partir de ce moment-là, qu'il a réellement la foi. Et c'est ce qu'on revient à dire quand on dit le fruit de l'esprit. Est-ce que c'est ça qui nous donne la conviction qu'on a la foi? Réellement, on n'a pas grand-chose. Quand Dieu nous dit, quand quelqu'un nous dit il est sauvé ou il n'est pas sauvé, ou même vous êtes sauvé ou vous n'êtes pas sauvé, Il faut regarder aux preuves qu'on peut voir tangiblement, et ça arrive avec votre obéissance sacrificielle aux demandes de Dieu, qui vous amène à dépendre de lui pour toutes choses dans la vie. Abraham, au verset 13, leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et donc, Dieu a réellement pourvu. Dieu a réellement pris soin de l'Holocauste. Et on voit ça parce que Jésus a réellement pris notre place sur la croix. C'est nous qui aurions dû mourir sur la croix, mais Jésus a été offert à notre place. Dieu a pas dans ce cas-là, retenu son fils. Il nous l'a complètement donné et il a complètement livré afin qu'on soit pardonné. Et quand on lit « Tu n'as pas refusé ton fils, ton unique », on se rappelle que Dieu n'a pas refusé Jésus pour que nous soyons sauvés. Alors, le bélier est offert, prend la place d'Abraham et est mis en holocauste. Donc, holocauste, je n'ai pas mentionné au début, mais c'est vraiment de brûler complètement la victime sur l'autel. Et ça représente généralement une démonstration d'une vie qui veut être complètement dévouée à Dieu. Et donc, Dieu offre la solution à ce test-là. Et il dit, et on voit que plus tard, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et l'ange de l'Éternel appela et il récompense la foi d'Abraham. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, par la parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Donc Dieu récompense l'obéissance. Dieu récompense la dépendance que l'on a envers lui. Et il n'est pas différent. Dieu fait juste encore réitérer sa promesse. Donc, si vous n'aviez pas encore compris que Dieu va réaliser cette promesse-là, il nous a dit pour la énième fois que ça va se produire. Un commentateur dit par rapport à cette histoire-là, je fais une traduction libre. La question n'est pas de savoir si vous allez à l'église, si vous lisez votre Bible ou toute autre activité spirituelle. La problématique est qu'au point crucial de votre vie et ce que vous considérez comme précieux pour vous, votre foi en Dieu a plus de valeur que tout ce qui est le plus cher, et ce au point que vous êtes prêt à sacrifier votre vie et à mettre de côté vos rêves, vos espoirs, parce que vous avez une confiance totale et implicite en Dieu. Voilà le problème. C'est la preuve monumentale qui fait toute la différence. Ne me dites pas que la foi d'une personne est réelle parce qu'elle va à des études bibliques. Vous n'en savez rien. Mais observez-les dans un choix décisif de vie. Oui, c'est dans un choix décisif, difficile de vie, là où les espoirs et les rêves, le destin et l'ambition et la vie elle-même sont en jeu, que la vraie foi se révèle toujours. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu vous demande aujourd'hui. Je ne sais pas c'est quoi votre situation aujourd'hui. Mais Dieu a peut-être demandé quelque chose de vous et vous avez hésité. Mais Dieu vous rappelle que, afin que vous vous rassurez de votre foi, ou afin que de rassurer ceux du dehors de votre foi, il faut que vous soyez prêt à lui obéir d'une manière sacrificielle, sans refus d'offrir à Dieu ce qu'il demande. Face aux promesses de Dieu, la foi nous permet de mettre les demandes de Dieu au-dessus de nos ambitions et ainsi dépendre de Dieu qu'il pourvoira pour accomplir ce qu'il a promis. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Prions. Père, on vient encore vers toi, dépendant, on vient vers toi pour te demander de soutenir notre foi, que par ton esprit, tu nous convainc de comment on doit t'obéir, comment on doit te suivre, comment on doit t'aimer. Donne-nous ta force pour marcher chaque jour selon ce que tu veux, afin que tu sois glorifié, tu sois loué. Merci pour Jésus, où on peut voir tout l'amour que tu avais pour nous quand tu l'as offert sur la croix pour nous. En ton nom, Amen.